Chapitre 17. Où l'on rapporte un acte touchant de délicatesse accompli par messieurs Dodson et Fogg, non sans une certaine dose de plaisanterie. Vers la fin du mois de juillet, un cabriolet de place dont le numéro n'est point spécifié s'avançait d'un pas rapide vers Goswell Street. Trois personnes y étaient entassées, outre le conducteur, placé comme à l'ordinaire dans son petit siège de côté. Sur le tablier pendaient deux châles appartenant, selon toute apparence, à deux dames à l'air revêche assises sous le dit tablier. Enfin, un gentleman d'une tournure épaisse et soumise était soigneusement comprimé entre les deux ladies, par l'une ou par l'autre desquelles il était immédiatement rabroué lorsqu'il s'aventurait à faire quelques légères observations. Ces trois personnages donnaient en même temps au cocher des instructions contradictoires, tendant toutes au même but, qui était d'arrêter à la porte de Madame Bardell. Mais tandis que l'épais gentleman prétendait que cette porte était verte, les deux ladies revêches soutenaient qu'elle était jaune. « Cocher, disait le gentleman, arrêtez à la porte verte. »«
Quel être insupportable !» s'écria l'une des dames. « Cocher, arrêtez à la maison qui a la porte jaune !»
Pour arrêter à la porte verte, le cocher avait retenu son cheval si brusquement qu'il l'avait presque fait reculer dans le cabriolet. Mais à cette nouvelle indication, il le laissa retomber sur ses jambes de devant en disant « Arrangez ça entre vous, moi ça m'est égal !» La dispute recommença alors avec une nouvelle violence. Et comme le cheval était tourmenté par une mouche qui lui piquait le nez, le cocher employa humainement son loisir à lui donner des coups de fouet sur les oreilles, suivant le système médical des révulsions.
« C'est la majorité qui l'emporte !» dit à la fin l'une des dames revêches. « Cocher, la porte jaune !»
Mais lorsque le cabriolet fut arrivé d'une manière brillante devant la porte jaune, faisant réellement plus de bruit qu'un carrosse bourgeois, comme le fit remarquer l'une des ladies, et lorsque le cocher fut descendu pour assister les dames, la petite tête ronde de Master Bardell se fit voir à la fenêtre d'une maison qui avait une porte rouge quelques numéros plus loin.
« Être assommant !» s'écria la dame ci-dessus mentionnée, en lançant à l'épais gentleman un regard capable de le réduire en poudre.
« Mais, ma chère, ce n'est pas ma faute !»
« Taisez-vous, imbécile ! La maison à la porte rouge, cocher ! Oh, si jamais une pauvre femme a été unie avec une créature qui prend plaisir à la tourner en ridicule devant les étrangers, je puis me vanter d'être cette femme !»«
Vous devriez mourir de honte, Raddle !» dit la seconde petite femme, qui n'était autre que Madame Cluppins.
« Dites-moi donc au moins ce que j'ai fait !»«
Taisez-vous, brute ! De peur de me faire oublier de quelle école je suis et que je ne m'abaisse à vous gifler !»
Pendant ce petit dialogue matrimonial, le cocher conduisait ignominieusement le cheval par la bride et s'arrêtait devant la porte rouge que Master Bardell avait déjà ouverte. Quelle manière plate et commune de se présenter devant la porte d'une amie ! Au lieu d'arriver avec tout le feu, toute la furie du noble coursier, au lieu de faire frapper à la porte par le cocher, au lieu d'ouvrir le tablier avec bruit, et juste au dernier moment, de peur de rester dans un courant d'air, au lieu de se faire tendre son châle comme si on avait un domestique à soi. Tout le zeste de la chose était perdu, c'était plus vulgaire que de venir à pied.
« Eh bien, Tommy, dit Madame Cluppins, comment va cette pauvre chère femme de mère ?»«
Oh, elle va très bien. Elle est dans le parloir de devant, toute prête. Je suis tout prêt aussi, moi. »
En parlant ainsi, Master Bardell fourrait ses mains dans ses poches et s'amusait à sauter de la première marche du perron sur le trottoir et vice-versa.
« Y a-t-il encore quelqu'un qui vient avec nous ?»
reprit Madame Cluppins en arrangeant sa pèlerine.
« Madame Sander y va aussi, et moi aussi, j'y vas aussi, moi. »
« Peste soit du moutard, il ne pense qu'à lui seul. Dites donc, Tommy, mon petit homme. »«
Hein ?
Qu'est-ce qui vient encore, mon amour ? continua Madame Cluppins d'une manière insinuante.
« Oh, Madame Rogers, elle vient aussi, elle !»
répondit ma sœur Bardell en ouvrant ses yeux de toutes ses forces.
« Quoi ? La dame qui a loué le logement ?» s'écria Madame Cluppins.
Ma sœur Bardell enfonça ses mains plus profondément dans ses poches et baissa la tête 35 fois, ni plus ni moins, pour exprimer qu'il s'agissait bien de la dame du logement.
« Ah, ça !» continua Madame Cluppins, « c'est une vraie noce !»«
Qu'est-ce que vous diriez alors si vous saviez ce qu'il y a dans le buffet ?» ajouta Master Bardell.
« Qu'est-ce qu'il y a donc, Tommy ?» reprit Madame Cluppins d'un air séduisant. « Je suis sûre que vous allez me le dire. »«
Non, je ne veux pas !»
rétorqua l'intéressant héritier en secouant sa tête un nombre indéterminé de fois et en recommençant à sauter sur l'escalier.
« Quel petit matin embêtant !» murmura Madame Cluppins. « Allons, Tommy, contez la chose à votre chère Cluppy. »«
Maman ne veut pas. Si je ne dis rien, j'en aurai, moi. J'en aurai, moi. »
Réjoui par cette agréable perspective, le jeune prodige s'appliqua avec une nouvelle vigueur à son manège enfantin. Cette espèce d'interrogatoire avait lieu tandis que M. Ruddle, Mme Ruddle et le cocher se disputaient sur le prix de la course. L'altercation s'étant terminée à l'avantage de l'automédon, Mme Ruddle entra dans la maison, affreusement agitée.
« Ciel, qu'avez-vous donc, Marianne ?» demanda Mme Cluppins. « Ah, Betsy, j'en suis encore toute tremblante !» Ruddle n'est pas un homme, il me laisse tout sur le dos. »
Cette attaque contre la virilité du pauvre Ruddle était à peine loyale, car dès le commencement de la dispute, il avait été mis de côté par son aimable épouse et avait reçu l'ordre péremptoire de tenir son bec. Quoi qu'il en soit, il n'eut pas le loisir de se défendre, car il devenait évident que Madame Ruddle allait s'évanouir. Dès qu'on s'en aperçut, de la fenêtre du parloir, Madame Bardell, Mistress Sanders, la locataire, et la servante de la locataire sortirent précipitamment et portèrent l'intéressante lady dans l'appartement, parlant toutes à la fois et l'accablant d'expressions de condoléances et de pitié, comme si elle était la personne la plus malheureuse de la terre. Elle fut déposée sur un sofa du parloir, et la dame du premier étage, ayant couru chercher un flacon de sel volatile, prit Madame Ruddle par le cou et le lui appliqua sous le nez avec toute la sollicitude compatissante du beau sexe. Après de nombreux plongeons, après s'être bien débattue, la dame évanouie fut enfin obligée de déclarer qu'elle se trouvait mieux.
« Ah, oh, pauvre créature !» s'écria Madame Rogers. « Je conçois ce qu'elle éprouve, hélas ! Je le sais trop bien !»« Ah, oh, pauvre créature ! Et moi aussi, je le sais !» répéta Madame Sanders. Et alors, toutes les dames commencèrent à gémir à l'unisson en disant qu'elles aussi savaient ce qu'il en était et la plaignaient de tout leur cœur. La petite servante elle-même, haute de 3 pieds et âgée de 13 ans, manifestait sa profonde sympathie.
« Mais qu'est-ce qui est arrivé ?» demanda Madame Bardell.
« Oui, » ajouta Madame Rogers. « Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état, madame ?»«
J'ai été contrariée !»
répondit Madame Ruddle d'un ton de reproche. Toutes les dames jetèrent aussitôt à M. Ruddle des regards pleins d'indignation.
« Le fait est, » dit ce malheureux gentleman en s'avançant, « le fait est que, quand nous sommes descendus à la porte, nous avons eu une dispute avec le conducteur du cabriolet. »
Un cri aigu de sa femme, à la mention de ce nom, rendit toute autre explication impossible.
« Ruddle, dit Madame Cluppins, « vous feriez bien de nous laisser seules avec elle pour la faire revenir. Elle ne se remettra jamais tant que vous serez là. »
Toutes les dames étant de la même opinion, M. Ruddle fut poussé hors de la chambre et engagé à prendre l'air dans la cour. Il s'y promenait depuis environ un quart d'heure, lorsque Madame Bardell vint lui annoncer, avec un visage solennel, qu'il pouvait rentrer maintenant, mais qu'il devait faire bien attention à la manière dont il se conduirait avec sa femme. Madame Bardel savait bien qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Mais Marianne n'était pas forte, et s'il n'y prenait pas garde, il pourrait la perdre au moment où il s'y attendrait le moins. Ce qui serait pour lui un terrible sujet de remords dans la suite. Monsieur Radel entendit tout cela et bien d'autres choses encore, avec grande soumission, et entra enfin dans le parloir, doux comme un agneau.
« Mon Dieu, Madame Rogers, dit Madame Bardel, personne ne vous a été présenté. Monsieur Radel, madame. Madame Kleppins, madame. Madame Radel, madame. »
« Sœur de Madame Kleppins, fit observer Madame Sanders.
« Ah, vraiment ? » dit Mistress Rogers gracieusement, car elle était locataire et c'est sa servante qui devait servir et, en vertu de sa position, elle devait être plus gracieuse qu'intime. « Ah, vraiment ?»
Madame Ruddle sourit agréablement, Monsieur Radel salua, et Madame Kleppins déclara qu'elle se trouvait bien heureuse d'avoir l'honneur de faire la connaissance d'une personne dont elle avait entendu dire tant de choses avantageuses. Ce compliment bien tourné fut reçu par la lady du premier étage avec une condescendance parfaite.
« Savez-vous, Monsieur Radel, dit Madame Bardel, que vous devez vous trouver fort honoré de ce que vous et Tommy, vous êtes les seuls gentlemen chargés d'escorter tant de dames au jardin espagnol à Hampstead. N'est-ce pas votre avis, Madame Rogers ?»«
Oh, certainement, madame !» répondit Madame Rogers.
Après quoi les autres dames répétèrent
« Oh, certainement !»«
Sans aucun doute, madame, je sens cela !» dit Monsieur Radel en se frottant les mains et en laissant apercevoir une légère tendance à la gaieté. « Et même, je disais à Madame Radel, pendant que nous venions dans le cabriolet,
en entendant ce mot qui réveillait tant de souvenirs pénibles, Madame Radel appliqua de nouveau son mouchoir à ses yeux et ne put s'empêcher de pousser un cri étouffé. Madame Bardel fronça le sourcil en regardant Monsieur Radel pour lui faire comprendre qu'il ferait beaucoup mieux de se taire. Puis, avec un air de dignité, elle pria la domestique de Madame Rogers de mettre le vin sur la table. À ce signal, les trésors cachés du buffet furent apportés en l'honneur de la locataire et donnèrent à tous les assistants une satisfaction sans limite. C'étaient plusieurs plats d'oranges et de biscuits, une bouteille de vieux Porto à 34 pence, puis une autre bouteille du célèbre Xérès des Indes orientales à 14 pence. Mais alors, à la grande consternation de Madame Kleppins, Tommy parut sur le point de raconter comment il avait été interrogé par elle concernant le contenu du buffet. Heureusement que, tout en parlant, il avala de travers un verre de Porto, ce qui mit sa vie en danger pendant quelques minutes et étouffa son récit dans son germe. Après ce petit incident, la compagnie alla chercher la voiture de Hampstead et, au bout de 2 heures, elle était arrivée, saine et sauve, au jardin espagnol. Mais là, le premier acte du malheureux Monsieur Radel faillit occasionner une rechute de sa tendre épouse. Car n'alla-t-il pas s'aviser de demander du thé pour 7, tandis que, comme toutes les dames le firent remarquer à la fois, rien n'était plus facile que de faire boire Tommy dans la tasse de quelqu'un ou dans celle de tout le monde quand le garçon aurait eu le dos tourné, ce qui aurait épargné du thé pour un, sans qu'il en fût moins bon pour cela. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de ressources, et le thé arriva avec 7 tasses, 7 soucoupes et du pain et du beurre sur la même échelle. Madame Bardel fut élevée au fauteuil à l'unanimité. Madame Rogers se plaça à sa droite, Madame Radel à sa gauche, et la collation chemina avec beaucoup de gaieté et de succès.
« Que la campagne est jolie !» soupira Mistress Rogers. « Je souhaiterais vraiment y vivre toujours !»«
Oh, vous ne l'aimeriez pas longtemps, madame !» répliqua Madame Bardel avec précipitation, car il n'était pas à propos d'encourager de semblables idées chez sa locataire.
« Je suis sûre, madame !» reprit la petite Madame Kleppins, « que vous ne vous en contenteriez pas 15 jours !» « Vous êtes trop gai et trop recherché à la ville !»«
Cela se peut, madame, cela se peut !» murmura doucement la locataire du premier étage.
La campagne, fit observer M. Radel en retrouvant un peu d'assurance et de gaieté. La campagne est très bonne pour les personnes seules, qui n'ont personne qui se soucie d'elles, ou pour les personnes qui ont eu des peines de cœur, et toutes ces sortes de choses. La campagne pour une âme blessée, dit le poète. Or, de toutes les paroles que pouvait proférer le malheureux gentleman, celles-ci étaient indubitablement les plus mal trouvées. En effet, à cette citation, Madame Bardel ne manqua pas de fondre en larmes et voulut quitter la table sur le champ. Ce que voyant, son tendre fils se mit à pousser des cris affreux.
« Est-il possible ? » s'écria Madame
Radel en se tournant avec fureur vers la locataire du premier étage.
« Est-il possible qu'une femme soit mariée à un être aussi insupportable qui se fait un jeu de blesser sa sensibilité à chaque instant de la journée ?»«
Ma chère, » dit M. Radel d'une voix plaintive, « je n'avais pas la moindre pensée. »«
Ah, vous n'aviez pas la moindre pensée !» répéta Madame Radel avec un noble dédain. « Allez-vous-en, je ne puis plus vous voir. Vous êtes une brute !»
« Ne vous tourmentez pas, Marianne !» interrompit Mistress Clopins. « Il faut vraiment faire attention à votre santé, ma chère. Vous n'y songez pas assez. Allez-vous-en, Radel, comme une bonne âme. Elle est toujours plus mal quand elle vous voit. »«
Oui, oui !» dit Madame Rogers, en appliquant sur nouveau frais son flacon. « Vous ferez bien de prendre votre thé tout seul, monsieur !»
Madame Sanders, qui, suivant sa coutume, était fort occupée du pain et du beurre, exprima la même opinion, et Radel se retira sans souffler mot. Après cela, les dames s'empressèrent d'élever Master Bardel dans les bras de sa mère, mais comme il était un peu grand pour cette manœuvre enfantine, ses bottines s'embarrassèrent dans la table à thé et organisèrent quelques confusions parmi les tasses et les soucoupes. Heureusement que cette espèce d'attaque, qui est contagieuse chez les dames, dure rarement longtemps. Aussi, après avoir bien embrassé son bambin, après avoir pleuré sur ses cheveux, Madame Bardel revint à elle, le remit par terre, s'étonna d'avoir été si peu raisonnable et se versa une autre tasse de thé. En ce moment, on entendit le roulement d'un carrosse qui s'approchait et les dames, en levant les yeux, virent une voiture de place s'arrêter à la porte du jardin.
« Encore du monde !» dit Madame Sanders.
« C'est un gentleman !» reprit Madame Radel.
« Eh mais !» s'écria Madame Bardel. « C'est Monsieur Jackson, le jeune homme de chez Dodson et Fogg. Est-ce que Monsieur Pickwick aurait payé les dommages ?»«
Ou offert le mariage ?» suggéra Madame Clopins.
« Comme le gentleman est long à venir !» dit Madame Rogers. « Pourquoi donc ne se dépêche-t-il pas ?»
Cependant, M. Jackson, après avoir adressé quelques observations à un homme en habit noir râpé qui venait de descendre du fiacre et qui tenait un gros bâton de frêne, se dirigea vers l'endroit où les dames étaient assises, tout en tortillant ses cheveux autour du bord de son chapeau.
« Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, M. Jackson ?»
demanda Madame Bardel avec anxiété.
« Rien du tout, madame, » répondit Jackson. « Comment ça va-t-il, madame ? Je vous demande pardon, madame, de vous déranger, mais la loi, madame, la loi !» En proférant cette apologie, M. Jackson sourit, fit un salut commun à toutes les dames et donna à ses cheveux un autre tour. Madame Rogers chuchota à Madame Radel que c'était réellement un jeune homme bien élégant. « Je suis allé chez vous, » reprit Jackson, et en apprenant que vous étiez ici, j'ai pris une voiture et je suis venu. Nous avons besoin de vous sur le champ, Madame Bardel.
Besoin de moi ? S'écria la dame, que la soudaineté de cette communication avait fait tressaillir.
Oui, dit Jackson en se mordant les lèvres, c'est une affaire très importante, très pressante, et qui ne peut pas être remise. Dodson me l'a dit expressément, et Fogg aussi. Tellement que j'ai gardé la voiture pour vous remmener.
Quelle drôle de chose ! S'écria Madame Bardel.
Toutes les dames convinrent que c'était fort drôle, mais elles furent unanimement d'avis que ce devait être fort important. Sans quoi Dodson et Fogg n'auraient pas envoyé à Hampstead.
Enfin, elles ajoutèrent que, puisque l'affaire était importante, Madame Bardel ferait bien de se rendre sur le champ à l'étude. Lorsqu'on est demandé avec une hâte si monstrueuse par son homme d'affaires, cela donne un certain degré de relief qui n'était nullement désagréable à Madame Bardel. En effet, elle pouvait raisonnablement espérer que cela la rehausserait dans l'opinion de sa locataire. Elle fit quelques minauderies, affecta beaucoup de vexation et d'hésitation, mais elle conclut, à la fin, qu'elle ferait bien de s'en aller. Ensuite, elle ajouta d'une voix persuasive. « Vous vous rafraîchirez bien un peu après votre course, monsieur Jackson. » Réellement, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Et puis, j'ai là un ami, » répondit Jackson en montrant l'homme au bâton de frêne.
« Oh, mais monsieur, faites entrer votre ami !»«
Mais... je vous remercie, » répliqua Jackson avec quelque embarras. « Il n'est pas habitué à la société des dames et cela le rend timide. Si vous voulez ordonner au garçon de lui porter quelque chose, je ne suis pas bien sûr qu'il le boive, mais vous pouvez essayer. » Vers la fin de ce discours, les doigts de M. Jackson se jouaient plaisamment autour de son nez pour avertir ses auditeurs qu'il parlait ironiquement. Le garçon fut immédiatement dépêché vers le gentleman timide qui consentit à prendre quelque chose. M. Jackson prit aussi quelque chose et les dames en firent autant par pur esprit d'hospitalité. M. Jackson ayant alors déclaré qu'il était temps de partir, Mme Sanders, Mme Clopin et Tommy grimpèrent dans la voiture, laissant les autres dames sous la protection de M. Raddle. Mme Bardell monta la dernière. Isaac, dit alors Jackson en regardant son ami qui s'était assis sur le siège et fumait un cigare. « Eh bien, voilà Madame Bardel. Oh, il y a longtemps que je le savais. » Madame Bardel étant entrée dans le carrosse, M. Jackson s'y plaça après elle et les chevaux partirent. Chemin faisant, Madame Bardel admirait la perspicacité de l'ami de M. Jackson. « Que ces hommes de loi sont malins, pensait-elle, comme ils reconnaissent les gens !» Au bout de peu de temps, Madame Clopin et Madame Sanders s'étant endormies, M. Jackson dit à la veuve du douanier « Savez-vous que les frais de votre affaire sont bien lourds ?»«
Je suis fâchée que vous ne puissiez pas les faire payer, » répondit celle-ci. « Mais, dame, puisque vous entreprenez les choses par spéculation, il faut bien que vous buviez un bouillon de temps en temps. »
« On m'a dit qu'après le procès, vous aviez donné à Dodson et Fogg un cognovit pour le montant des frais. »«
Oui, simple affaire de forme. »«
Sans doute, » répliqua Jackson d'un ton sec, « simple affaire de forme, comme vous dites. » On continuait à rouler et Madame Bardel s'endormit. Elle se réveilla au bout de quelque temps lorsque la voiture s'arrêta.
« Comment ? » s'écria-t-elle. « Sommes-nous déjà à Freeman's Court ?»
« Nous n'allons pas tout à fait jusque-là, » repartit Jackson. « Voulez-vous avoir la bonté de descendre ?» Madame Bardel obéit machinalement, car elle n'était pas encore complètement réveillée. Elle se trouvait dans un drôle d'endroit, un grand mur avec une grille au milieu, et, à l'intérieur d'un vestibule, un bec de gaz qui brûlait. « Allons, mesdames, » dit l'homme au bâton de frêne en regardant dans la voiture et en secouant Madame Sanders pour la réveiller. « Descendons !» Madame Sanders ayant poussé son amie, elles descendirent, et Madame Bardel, appuyée sur le bras de M. Jackson et conduisant Tommy par la main, était déjà entrée sous le porche. La chambre où les trois dames pénétrèrent ensuite était encore plus singulière que l'entrée du bâtiment. Il s'y trouvait tant d'hommes debout, et ils regardaient si fixement les ladies.
« Qu'est-ce donc que cet endroit ?» demanda Madame Bardel en s'arrêtant.
C'est une de nos administrations publiques, répondit Jackson en lui faisant passer une porte. Puis, se retournant pour voir si les autres femmes le suivaient,
Attention, Isaac, s'écria-t-il.
N'ayez pas peur, répondit l'homme au bâton de frêne. La porte se referma pesamment sur eux et ils descendirent un escalier de quelques marches.
Enfin, nous y voilà.
s'écria Jackson en regardant d'un air triomphant autour de lui, sain et sauf. Hein, madame Bardell ?
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Demanda la dame, dont le cœur palpitait sans qu'elle sût pourquoi.
Voilà, répondit Jackson en la tirant un peu de côté. Ne vous effrayez pas, madame Bardell. Il n'y a jamais eu d'homme plus délicat que Dodson, madame, ni de plus humain que Fogg. C'était leur devoir, comme homme d'affaires, de vous faire mettre à l'ombre pour ses frais. Mais ils tenaient beaucoup à ménager votre sensibilité autant que possible. Quelle consolation pour vous de penser comment cela s'est fait. Vous êtes dans la prison pour dette, madame. Je vous souhaite une bonne nuit, madame Bardell. Bonsoir, Tommy. Ayant dit ces mots, Jackson s'éloigna rapidement avec l'homme au bâton de frêne. Un autre individu, qui se trouvait là avec des clés à la main, emmena madame Bardell tout éperdue à un corridor du second étage. La malheureuse veuve poussa un cri de désespoir. Tommy l'accompagna d'un grognement. Madame Kloppins resta pétrifiée. Quant à madame Sanders, elle s'enfuit sans plus de façon, car M. Pickwick, l'homme innocent et opprimé, était là, prenant sa pitance d'air quotidienne, et près de lui se tenait Sam Weller, qui, en apercevant madame Bardell, ôta son chapeau avec une politesse moqueuse, tandis que son maître indigné faisait une pirouette sur le talon. « Ne la tracassez pas, cette pauvre femme !» dit le guichetier à Sam Weller. « Elle ne fait que d'arriver !»« Prisonnière ?» s'écria Sam en remettant son chapeau avec vivacité. « À la requête de qui ? Pourquoi ? Parlez donc, vieux !»«
Dodson et Fogg, » répondit l'homme, « en vertu d'un cognovite pour des frais. »«
Ici, Job, Job !» vociféra Sam en se précipitant le long du corridor. « Courez chez M. Perker, Job. J'ai besoin de lui sur le champ. Voilà une bonne affaire pour nous, je l'espère. Ah, la bonne farce ! Hurrah ! Où est le gouverneur ?» Mais personne ne répondit à ces questions, car aussitôt que Job avait appris de quoi il s'agissait, il était parti comme un furieux et Madame Bardell s'était évanouie pour tout de bon.